Deuxième partie de l'exposé. Barbara Lucas énonce la volonté de personnes en situation délicate, puis questions-réponses avec la salle. Durée 40 minutes. Qualité sonore relative. Écoute au casque recommandé.
J'étais assez touchée, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui est assez, oui, vraiment touchant, au sens où c'est pas seulement, je pense, qu'on a intégré que quand on veut un peu, c'est une foi, j'ai presque envie de le dire comme ça, notamment chez des personnes qui sont assez nouvellement arrivées en Suisse, une foi, un espoir dans l'État, dans la Suisse, dans l'État social, dans la justice. Et c'est quelque chose qui vous prend vraiment parce que vous dites, vous n'allez pas lui dire oui, bon, reste encore quelques années, puis tu vas redescendre. Mais si vous voulez aussi, en termes théoriques, c'est autre chose parce que ça va dans l'autre sens. Si on le prend, parce que, là, ce que tu dis, c'est qu'elles ont intériorisé des normes. Mais il y a aussi cette foi, c'est de dire, je pense que cet État-là, la Suisse, avec cette offre sociale-là, elle va m'offrir ça. Je vais pouvoir, je vais y arriver, et elle le pense sincèrement. Et ça va en quelque sorte, là je tire là aussi, hein, j'extrapole beaucoup, mais ça va quand même en quelque sorte contre une analyse du non-recours, parce que c'est parfois lié au non-recours, c'est vraiment, je vais quand même m'en sortir grâce ou avec ces aides. Et dans ce que les collègues français voient dans le non-recours aussi, c'est le fait que, et dans ce cas-là ce serait dans une histoire de temporalité, ça serait lié à une sorte de renoncement. Je n'y crois plus. Je ne crois, parfois même, je perds même l'idée que je peux avoir des droits. Et tu vois ce que je veux dire, et on est vraiment, en quelque sorte, il faut arriver, ça amène, je pense, en termes d'intervention sociale, quelque chose, il faut arriver au bon moment, parce que les gens croient. Les gens y croient vraiment, et sont prêts à le faire. Et peut-être que ceux qui ont été rencontrés par l'équipe de Nodeller plus tard, qui sont des gens non recourants, qui sont complètement sortis de l'idée même d'avoir des droits, ou qui se sont tellement sentis rejetés, puisqu'on sait que l'exclusion, hein, sentis exclus de telle façon que maintenant ils rejettent tout ce système, ou ces gens, ou ça, qui ne les a pas intégrés. Mais en tout cas, je pense que si on capte ces discours-là à ce moment-là, ce qui, moi, m'impressionnait à chaque fois vraiment, mais aussi chez des hommes, d'ailleurs, et c'était presque pas pathétique, mais je sais pas quel terme, il y a un espoir dans le droit, et je pense que c'est pas inintéressant de le dire aujourd'hui à l'ère des partis populistes et autres, et de dire oui, on est dans le rejet, dans le populisme qui est le rejet des institutions, le rejet de la démocratie, le rejet des élites, le rejet des travailleurs sociaux. Il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup d'espoir de personnes en situation de précarité là-dessus.
Elle n'est pas en situation de recours.
Alors, dans son cas-là, ce cas-là, c'est une personne qui a recouru à l'aide sociale lorsqu'elle n'a plus pu faire autrement. Et dans l'entretien, c'est arrivé à un moment vraiment où, au moment où elle l'a dit, d'ailleurs elle a utilisé le terme en disant « je suis arrivée à l'état animal ». Et c'est parce que je suis arrivée à l'état animal que je suis allée à l'aide sociale. Donc ça ne s'inscrivait pas du tout dans son parcours. Et en termes d'entretien, c'est un moment délicat parce que je lui ai demandé si elle se souvenait, je voulais la faire parler, puis je lui ai demandé finalement si elle se souvenait du moment où elle avait choisi, parce qu'elle éludait toujours le retournement, puisqu'elle ne voulait tellement pas y aller, mais que finalement elle y était allée. Et de lui demander, en fait, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez décidé ? Elle s'en souvenait tellement que ça a été un moment assez délicat en termes d'entretien, parce qu'elle a... Donc c'était vraiment un moment très critique, si tu veux. Dans ça. Je dis juste encore une chose, c'est vrai que j'ai un peu plus insisté sur les mères célibataires, célibataires. Aussi parce que la recherche qu'on mène actuellement porte sur les familles, aux prestations. Et donc, il s'agirait de penser ces stratégies de non-recours des femmes dans le cas où elles n'ont pas d'enfants. On n'aura pas, nous, empiriquement des entretiens avec des personnes comme ça, parce qu'on les choisit parce qu'elles ont des enfants, mais je pense que ça doit pouvoir mettre en avant des mécanismes qui sont de l'ordre néanmoins de cette double subordination dont je parlais sur le marché du travail, avec ou sans enfants. Il y a segmentation et inégalité très clairement des femmes-hommes, et par rapport aux conjoints, avec ou sans enfants, il y a des inégalités et une forme de domination qui persiste par rapport au conjoint.
Voilà. T'en écho à une discussion parce que tu as dit que tu as posé dans l'entretien la question est-ce qu'elle se sentait pauvre ?
Oui, la et première.
Oui. Et je trouve intéressant parce que je me dis, mais au fond, est-ce qu'on fait un recours quand on est pauvre ou est-ce qu'on fait un recours quand on se sent pauvre ? Et c'est quoi la différence ? Et quel est le... Enfin, je pense que ça a posé cette question comme ça dans l'entretien, c'est certainement pas pour rien. Enfin, voilà. Et du coup, je trouve que la définition de départ, elle est très objective en fait. Enfin, la place pour l'expérience ou la manière de se sentir pauvre ou pas, sauf erreur, pour ma part, elle n'est pas dans la définition de départ du recours, qui est d'avoir droit au futur, je ne sais pas quoi. Et je, enfin, du coup, je trouve intéressant de se dire, mais au fond, la manière de vivre la pauvreté de ces personnes et quelles sont les manières de vivre la pauvreté qui permettent ou qui favorisent ou qui ne favorisent pas le recours. Enfin, je ne sais pas, je trouve que là, il y a une bouche encore de phénomène qui est...
Bon, ça rejoint les approches dont s'inspire Pogam d'ailleurs de Simmel et la définition de la pauvreté, qui est une définition comme rapport social, avant que d'être une définition comme niveau de revenu objectif, définition comme rapport social. Donc si on la pousse à terme, on est pauvre que, dans la caricature de la définition de Simmel, que à partir du moment où on touche de l'aide sociale. Donc dans cette perspective-là, le non-recours est une façon de ne pas être pauvre. Tant que je ne suis pas à l'aide sociale, je ne suis pas pauvre au sens de Simmel, et j'ai envie de dire, je ne suis pas disqualifié. Au sens, mais il y a des meilleurs connaisseurs que moi de la sociologie de Pogam, mais Pogam a aussi montré que justement ces stratégies de situation de disqualification prenaient des sens différents selon la situation et la perception des personnes. On peut tout à fait, si on pense qu'on est dans quelque chose de provisoire, par exemple, on peut avoir imaginé un rapport au chômage totalement différent si c'est un rapport assez tactique, pas dire stratégique, de type, bon, pendant 3 mois là, je fais ça, et après, hop, je raccroche sur mes études. Une utilisation du droit et des services à disposition dans le cadre de quelque chose qui n'est pas du tout vécu comme de la disqualification, voire même comme une stratégie de qualification. Hein, pourquoi pas, on peut s'imaginer, je finis ma thèse en me mettant au chômage, et après, hop, je postule pour un poste, voilà. D'autres, c'est autre chose que d'être au chômage parce qu'on se sent qu'on n'a jamais réussi, qu'on a perdu un emploi, qu'on ne retrouve pas, qu'on envoie 100 lettres par jour et qu'on nous répond chaque fois non, et qu'on approche du fin de droit. Je sais pas qui, il y avait juste avant. Hein, voilà.
Donc moi je m'interrogeais juste sur...
Puis il y avait une dame au fond, madame, hein, vous vouliez aussi dire quelque chose. Non ?
Ah non. Ah
pardon. Pardon.
Moi, je veux poser une question, est-ce que c'est tout ça là ? Est-ce que tout ça, ça va même aussi à la prostitution ? Grave question.
Alors moi, je ne pourrais pas vous dire que ça amène à la prostitution. Par contre, on a une collègue qui est spécialiste des questions de prostitution dans la salle, qui peut-être pourra faire des liens avec la prostitution. Tu veux dire quelque chose ?
Je vais simplement citer une personne que j'avais interviewée et qui disait que c'est pas... Enfin, c'est pas moi qui l'avais interviewée, en plus. Qui disait... qu'elle se prostituait pour pas parce qu'elle était pauvre, mais bien pour sortir de la pauvreté.
Voilà. Oui.
Évidemment, il n'y a pas un lien de causalité entre être pauvre et se prostituer, mais c'est bien pour sortir de la pauvreté.
Oui, et ça nous renverrait au premier schéma que j'avais montré sur le RSA, pour le dire, où on avait une partie des réponses qui disaient « j'ai des possibilités alternatives ». Je n'ai pas besoin du RSA parce que je vais trouver d'autres façons de faire. D'ailleurs, alors là, ça pourrait être de dire ben, la prostitution peut m'offrir une solution alternative. Salut Jean-Daniel. Et être comprise comme ça, comme une façon de ne pas entrer dans la pauvreté.
C'est bien pour ça que dans mon association, nous avons voté que ça serait une possibilité de recours même momentané
voilà.
Pour pouvoir se sortir de... Parce que c'est jamais un choix, la prostitution, c'est un choix dans le choix. C'est-à-dire parce que la société ne nous permet pas d'avoir un autre
choix.
Oui, j'avais une remarque, merci beaucoup. L'une, c'est sur la notion de droit. Tu parlais de la foi dans le droit et dans les institutions. Alors, nous, l'avancée que j'avais menée, c'était Jean-Pierre Tabin, et avec moi, il y avait Carole Attenu, une historienne aussi, sur le gouvernement des pauvres, justement. On avait fait un grand nombre d'entretiens sur les bénéficiaires de l'aide sociale. Donc on n'est pas sur les recours, mais sur les bénéficiaires, juste de manière croisée. Entre-temps, ils avaient introduit une inégalité de droit à l'aide sociale au nom de la... C'est dans la Constitution fédérale depuis 1999. Et ce qu'on récoltait comme témoignage récurrent auprès de jeunes bénéficiaires de l'aide sociale, notamment des hommes et des femmes, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de dire « c'est un droit entre guillemets ». Oui, je sais, c'est un droit. On nous dit « mais quand c'est un droit, mais c'est un droit entre guillemets ». Et quand on leur demandait de développer cette idée du droit entre guillemets, dans les longs développements, ils nous disaient que « mais ça revient à ce que tu disais sur l'état social stigma », c'est-à-dire que l'accès à ces prestations, notamment les contre-prestations avec les mesures d'intégration, le bonus de 300 francs, ben, c'était quand même très contraignant. Et voilà, ça c'était juste un élément que cette fois dans le droit, dans les institutions, en tout cas, j'ai pas toujours... Enfin, voilà. Si on prend un certain nombre de populations qui touchent ces prestations sociales, alors peut-être ils renvoient à une foi qui n'est pas toujours celle qui est instituée, mais une autre foi telle que le monde devrait être. Mais en tout cas, dans les institutions établies, il y a peut-être vraiment des droits, entre guillemets, c'était quand même très fort. Ça, c'était un petit élément de réflexion. Et un autre élément, c'était comment interpréter ces discours sur les abus à l'aide sociale. Et tu disais que des fois, on a l'impression que certains ont terriblement intériorisé ce discours, porté notamment par les partis d'extrême droite populistes sur les abus. Alors, la question, comment interpréter ça aussi? On l'a beaucoup rencontré. Je pense qu'on n'a pas poussé assez loin l'interprétation. Alors, une des interprétations, c'est oui, intériorisation. Ça, c'est évident, une forme d'intériorisation. Mais après, comment ça se fait que c'est tellement mobilisé pour se démarquer des autres personnes qui touchent l'aide mais qui ne devraient pas la toucher? Je ne parle que des situations de gens qui touchent ces prestations. Et du coup, il y a quand même beaucoup de travaux. L'AE, Jean-François L'AE, et puis Gérard, l'argent des pauvres. On voit que chaque fois dans ces populations aidées, elles sont elles-mêmes amenées à se ranger du bon côté. Et du coup, sans doute, ça renvoie à ce que tu disais, à une population potentiellement stigmatisée. On veut être du bon côté, du côté du bon pauvre. Mais au-delà, pour faire le lien avec les rapports sociaux dont tu parlais, l'intersectionnalité, je me pose la question parce que, en relisant des fois Hogarth qu'on donne à lire dans nos cours, c'est bien dans le sujet de la pauvreté. Donc, Richard Hogarth a analysé les stigmobiles des classes populaires en Angleterre dans les années 50, mais c'est un auteur qui est beaucoup repris aujourd'hui, pas simplement. Il montre qu'il y a tout un chapitre sur on a sa dignité. Notamment par rapport on a sa dignité. Et donc la croyance, l'idée du courage, d'être capable de s'en sortir par soi-même. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute deux phénomènes, ce que disait Laurence Bachmann, l'habitus entrepreneurial dont parlait Franz Schultheis dans ce cycle de conférences, qui est diffusé dans les nouvelles politiques sociales. Il est sans doute en partie intériorisé, l'homme comme entrepreneur de soi. Mais peut-être ça prend des résonances très diverses selon les milieux. Et au milieu populaire, on a sa dignité. C'est pareil, c'est un point d'honneur à montrer qu'on ne dépend pas des institutions, qu'on les met. Voilà. Il y a sans doute plusieurs interprétations pour creuser la diffusion de ce discours de la lutte contre les abus. C'est juste des pistes. Là. Je réfléchis. Ouais.
Tu veux enchaîner, Laurence, puis...
Je te laisse répondre. Non, mais,
oui, alors juste deux choses. Je pense que l'explication en termes d'intériorisation. Qu'on se méprenne pas, je ne dis pas ça pour faire du politically incorrect, mais je pense que c'est une explication trop rapide. Je pense qu'on devrait se donner la peine. C'est une explication un peu facile. Ah, les pauvres, ils ont gobé tout ce que l'UDC méchant leur dit. Donc je trouve que c'est un peu facile comme explication, même s'il y a des mécanismes, hein, que toute une sociologie montre comment fonctionnent ces mécanismes. Pas ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je m'étais... Je suis ouverte à d'autres possibilités d'explication, notamment en termes de besoin de se positionner de façon différenciée dans ce champ de la pauvreté pour rester digne. Et on interroge toujours les personnes quand elles nous disent ce type de choses, parce qu'elles nous le disent pratiquement toutes. Je leur demande toujours d'où est-ce qu'elles tiennent ça. Donc elles tiennent ça de gens qui leur ont dit, ou elles tiennent ça de gens qu'elles connaissent. Elles ne tiennent jamais ça de la lecture vraiment des journaux, en quelque sorte, ni du fascicule de l'UDC. Elles tiennent ça, d'après ce que je sens maintenant, toujours exploratoirement, de quelque chose qui circule dans le milieu social qu'elles fréquentent, d'où qu'ils viennent, et qui, très certainement, le fait de se le réapproprier et de nous le ressortir en conditions d'entretien, effectivement contribue à ce positionnement-là. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, quand je dis « droit », moi, j'ai du droit au sens des droits que l'État social peut attribuer avec certaines conditions. L'aide sociale est-elle un droit ou pas? C'est une autre question. De ce qu'on entend des entretiens à ce jour, c'est une distinction quand même entre un état de droit et des droits qui seraient, pour caricaturer, des droits mérités, parce qu'on aurait contribué, parce qu'on aurait le chômage, l'AI, enfin, quelque chose qu'on aurait gagné. De nouveau, hein, ce fameux discours sur le mérite, en quelque sorte, quelque chose qu'on aurait gagné et donc dont on n'aurait pas à avoir honte. Contrairement à l'aide sociale, et alors l'hospice général pour parler de Genève, et de l'aide sociale qui, véritablement, à ce jour, dans les 20 et quelques entretiens qu'on a menés, est une constante d'un truc noir. Très, très, très rares sont les personnes qui sont passées, mais par contre, si elles sont passées et qu'elles ont eu une bonne expérience, elles peuvent en rendre compte positivement. Mais pour les personnes qui n'y sont pas passées, en quelque sorte, c'est le repoussoir absolu, c'est l'image du 19e siècle de la pauvreté. Alors marginale, justement, c'est les cas sociaux, c'est les toxicomanes, c'est les faibles. C'est les faibles, c'est le symbole de la faiblesse, y compris pour les femmes. Et c'est pas un droit. Effectivement, c'est de l'assistance, ce pourquoi je ne veux pas y aller, contrairement éventuellement à d'autres droits. Juste, et après...
Ouais. Bon, justement, puisqu'on est dans les droits, je voulais juste remarquer la description que tu fais des deux personnes juste en bas. Tu mets italienne, origine marocaine, mais je veux être bien sûr que, et en plus, encore plus dans l'autre cas, que c'est des personnes qui ont droit. Donc elles ont un permis d'établissement ou un permis de résidence qui leur donne un droit aux prestations.
Oui, et ce qu'il faut dire, c'est qu'elles auraient droit à toute une série de prestations et que dans notre recherche, on ne focalise pas sur l'aide sociale, on focalise sur toute une série de droits. Par exemple, les prestations, donc il y a des droits de type cantonaux, on regarde les prestations cantonales famille, l'hospice général serait une, mais aussi, on essaye, ça nous a pris pas mal de temps, mais de constituer un corpus de gens qui habitent en ville de Genève, des droits qui seraient liés aux prestations de la ville de Genève. Par exemple, le fait qu'il peut y avoir des subsides pour payer les repas de midi aux parascolaires. Ce sont quelque chose qui est relativement mal connu, méconnu, et où ces personnes auraient droit. Donc on ne se focalise pas que sur l'aide sociale. Mais oui, en l'occurrence, c'est des personnes qui auraient certains droits ou qui seraient dans l'idée qu'elles pourraient l'avoir. Donc là, on a une vision qui est relativement large. Parce que ce qui nous intéresse au fond, c'est pas comme le quantitatif WIST, qui veut savoir exactement combien aurait droit par rapport à combien demande, mais ce qui nous intéresse, c'est ce rapport à l'aide, étant donné que je me sens dans une situation vraiment difficile et que j'ai besoin de quelque chose, est-ce que les aides publiques disponibles au niveau local ou au niveau cantonal pourraient être une possibilité? C'est ça qu'on regarde.
On a, dans une petite étude qu'on a faite dernièrement à l'Hospice Général avec Jérôme Abillard, on voit aussi le fait que si on a un permis B ou un permis C, on est franchement découragé par l'Hospice Général de toucher ces prestations. On leur dit, vous risquez de voir votre permis pas renouvelé, voire votre demande de naturalisation.
Alors ça, c'est un élément sur lequel j'ai pas voulu amener dans la conférence pour pas... complexifier une présentation qui est déjà assez complexe, mais c'est vrai qu'à Genève actuellement, c'est un des grands facteurs qui peut permettre d'expliquer une partie du non-recours, qui est effectivement le durcissement de la politique du lien entre disons la précarisation du statut comme permis B, voire même permis C, a une implication directe sur la précarisation en termes de droits sociaux, puisqu'on a fait comprendre à beaucoup de personnes qu'elles risquaient de perdre leur permis. Bon, c'était déjà dans le droit, sauf erreur dans la loi sur les étrangers, mais enfin maintenant c'est devenu véritablement... Le code pénal a été modifié, et ça c'est le code pénal, oui. Et c'est devenu véritablement une menace. Donc si je vais à l'aide sociale, il est possible qu'on puisse plus tard ne pas me renouveler mon permis, pour cette raison même que j'étais à l'aide sociale. C'est un critère... pour ne pas renouveler le permis. Après, ce qu'on voit, nous, dans les quelques entretiens menés, c'est que, d'une part, effectivement, on a eu des témoignages, assez outrés d'ailleurs, de gens qui sont allés à l'Hospice Général, où il y a eu cette dissuasion active de la part des professionnels dont je parlais. Ne venez pas parce que vous risquez de perdre votre permis. Et d'autres personnes qui, ou même des personnes à qui c'est arrivé, mais qui n'ont pas jugé bon, de retenir cette crainte, se sont renseignés par ailleurs et se sont dit c'est pas grave, j'y vais quand même, et passe outre en quelque sorte. Donc on a un rapport à cette épée de Damoclès qui est assez différent selon les cas, je ne sais pas plus, je ne pourrais pas avoir d'hypothèse, mais c'est clair que c'est un des facteurs de non-recours si on s'intéresse particulièrement à l'aide sociale. L'aide sociale, c'est ça qui est visé dans le viseur.
C'est juste pour si j'ose dire là-dessus, c'est que sur l'aide sociale, par exemple, enfin, moi j'ai enquêté sur des mesures du chômage et j'ai vu des professionnels qui essayaient de se dire ah si, hein, là ils ne sont pas vraiment employables selon les conditions propres du chômage, on ne va pas réussir à l'insérer, mais ah, il a un permis. Si on lui dit d'aller voir à l'aide sociale, le risque c'est qu'il ne soit pas renouvelé, donc est-ce qu'on ne le garderait quand même pas, en fait. Donc il y avait une conscience de ça, donc dans l'autre sens, de dire, bah, en fait, peut-être qu'on n'aurait pas le... Ah. Alors c'est juste pour dire qu'il n'y a pas seulement de ne pas accéder aux prestations, mais certaines prestations qui ne rentrent pas encore dans cette pénalisation, les travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux, elles essayent d'une autre manière. C'est juste pour montrer qu'il y a ce double conscience à partir de là.
Plein de... Je ne sais pas qui c'était. Allez-y.
Oui, une série de réflexions et de questions. Je trouve très intéressante ce mot d'hospice qui a été utilisé plusieurs fois et vous disiez ça renvoyait à l'image du 19e. Et ce que je trouve intéressant, c'est que depuis des décennies, alors qu'on la chante, il y a eu des glissements sémantiques et des changements de nomination de toutes sortes d'entités, l'hospice, on n'a jamais changé, et je pense qu'il y a, une interrogation à avoir par rapport à ce nom qu'on continue à donner à une entité. Est-ce qu'on n'a pas envie de continuer à véhiculer justement cette image pour que les gens aillent le moins possible? Parce que je pense que si ça s'appelait... administration des droits sociaux, peut-être que ce serait bien différent et les gens passeraient la porte plus facilement. Je serais bien intéressée à ce que, à savoir s'il y a eu des recherches sur ce genre de choses en lien avec ce que vous dites là. Sinon, merci beaucoup pour cette présentation qui est extrêmement claire. Et ce qui ressort, et que moi, qui ne suis pas dans le social, mais qui suis ça de près, là, quoi, je suis là, ce que beaucoup d'assistantes sociales, que ce soit dans des services sociaux de communes, dans des associations, disent, c'est qu'elles passent leur temps à demander pour les personnes dont elles s'occupent ce à quoi elles ont droit. Et en fait, à faire doublement le travail. Et moi, je serais curieuse de savoir quand est-ce que vous allez terminer. Et aussi, par rapport à ce type de discours ambiant qui est quand même, et ça j'aimerais bien qu'on arrête de dire les politiques, parce que dites plutôt les médias qui véhiculent un certain type de discours politique, celui qui choque le plus et de plus en plus, et jamais les autres. Moi j'aimerais aussi entendre les intellectuels disent que, et donc j'aimerais savoir quand est-ce que vous allez terminer cette étude, parce que en tant que politique, je suis très intéressée à savoir comment on peut favoriser l'accessibilité, parce que c'est une question que j'ai souvent posée. L'information existe, mais elle n'arrive pas vers ceux qu'elle doit toucher. Des études l'ont montré, et moi je serais très curieuse de savoir quelles propositions on peut faire à partir de vos travaux. Donc merci de les rendre, de faire qu'il y ait des discours qu'on puisse nous aussi, que la population puisse intérioriser. Excusez-moi, je suis un peu. J'espère que je suis comprise. Je vais un peu dans tous les sens.
Je vais aller juste sur vos deux points. Donc, le premier, ça m'a, ce que vous dites sur le nombre d'hospices, je me suis posé la question. Vous savez que le Relais d'Humain, qui est un foyer pour personnes malades d'Alzheimer, qui était le premier foyer pour malades d'Alzheimer, et d'ailleurs pendant très longtemps le seul dans tout le canton de Genève, ça plaît un truc comme foyer Alzheimer. Et ils ont fait cette réflexion assez vite pour se dire que c'est une autre question de non-recours, qui est de non-recours des personnes, des proches aidants de malades d'Alzheimer à des aides. Et l'idée, c'était effectivement de déstigmatiser. Il y a tout ce travail autour de la déstigmatisation de la maladie d'Alzheimer. Et dans le cadre de ce foyer, ça a été fait. Le mot d'Alzheimer a été supprimé. Autant Alzheimer Suisse maintient le terme alors que scientifiquement, en quelque sorte, il vaut rien. Mais Alzheimer Suisse le maintient pour des motifs politiques, pour une reconnaissance de la problématique en termes politiques, mais au niveau du terrain et de la pratique, le relais Dumas l'enlève pour une question d'accessibilité et d'ouverture. Très vite, d'ailleurs, après, ils ont été en quelque sorte gagnés par le succès et par l'importance de la demande et débordés, mais c'est une autre histoire. Sur le projet, ça renvoie effectivement à tous ces enjeux en termes de visibilisation, de communication et de la recherche. Cette recherche a pour objectif, effectivement, de mieux comprendre à partir du cas des familles en situation de précarité à Genève, de mieux comprendre des mécanismes de non-recours et notamment, pas uniquement, mais notamment ces mécanismes genrés. L'idée, si tout va bien, c'est qu'on arrive cet automne, peut-être en septembre ou avant, mais je pense que vu le temps qu'on a pris à trouver les gens, ce sera plutôt cet automne. Je ne l'ai pas dit, mais du coup j'en profite, c'est un projet qui est mené avec la participation active des grands acteurs du social à Genève, puisque l'Hospice Général est impliqué, la ville de Genève est impliquée, Caritas est impliquée, et le Centre Social Protestant est impliqué. Nous ont aidé d'ailleurs pour une partie du recrutement, entre guillemets, de trouver des personnes pour les entretiens. On est toujours en train d'en mener, hein, ça a été vraiment une longue histoire. Et l'idée, c'est que une fois qu'on aura des premiers résultats, ou en tout cas des résultats parlant pour ces partenaires-là de terrain, d'organiser des groupes de discussion, c'est ça que je pense que ça risque de se faire en septembre, des groupes de discussion avec des acteurs donc, du terrain social genevois, dont des acteurs de ces quatre institutions que je vous ai citées, qui sont déjà engagés à participer, pour voir comment eux, sur la base de ces résultats, pourraient faire des propositions, soit en interne, d'amélioration, soit, évidemment, chacun a aussi son agenda en termes de communication politique qui leur appartient. Et, dans un deuxième temps, ces propositions seront discutées par des groupes de discussion parmi les personnes qu'on a interviewées là, dont déjà plus d'une dizaine s'est manifestée comme étant vraiment intéressée à participer à ces groupes de discussion, on sait que ça c'est un instrument assez utile pour ça, les focus groups, réagir aux propositions qui auront été faites. L'idée, c'est de communiquer ensuite, sobrement et proprement, disons, dans ce champ assez tendu politiquement, en gardant bien ce positionnement qui est le nôtre, qui est le positionnement de chercheur. On n'a pas clé en main les solutions, hein, c'est aux politiques et aux partenaires de se les approprier. Et l'idée aussi, c'est... là, je vous ai parlé d'une recherche qui est éminemment qualitative. Donc, ce qu'on peut sortir, c'est des hypothèses et des mécanismes qui auraient peut-être été ignorés. C'est quelques résultats aussi sur le rapport des personnes qu'on a interviewées aux institutions genevoises. Mais ce qu'on a voulu faire, et que je pense qu'on est en bonne voie d'arriver à faire, c'est de pouvoir enfin, et en parallèle, quantifier ce phénomène. Je vous ai dit qu'à Berne, ça a été fait pour la première fois, il s'est sorti cet été, les résultats. De pouvoir quantifier, ou en tout cas estimer quantitativement, le phénomène du non-recours, plus largement que sur les familles, là pour le coup, dans le canton de Genève. Et je pense qu'on devrait obtenir, si tout va bien, d'ici peu, un financement pour ce projet-là, avec, en l'occurrence, puisque via ce premier projet, on a les liens avec le canton, et on a les liens qui nous a renvoyés, qui nous a donné effectivement la possibilité d'utiliser des données quantitatives tirées du RDU, ce qui est délicat, donc via l'Office cantonal de la statistique. Éric Créta, qui est chercheur que je citais, partenaire de ce projet, mènerait ce projet quantitatif. Donc l'idée, ce serait de pouvoir communiquer, puisque je réponds à la politicienne que vous êtes, l'idée, ce serait de pouvoir communiquer sur les résultats des deux projets. Et un projet qui permettrait de quantifier ce phénomène à Genève, ou en tout cas d'estimer quantitativement l'ampleur, et un projet qui amènerait des réflexions plus qualitatives sur le sens que ces données chiffrées peuvent prendre dans le cas de Genève. Voilà. Comme agenda, si tout va bien, dans moins d'un an.
Les deux assistantes sociales au centre social protestant, et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à faire valoir les droits des personnes. Donc quand on a une personne qui vient déjà avec un parcours difficile, notamment quand elles ont des dettes, etc., peu d'énergie ou moins d'énergie, et puis qu'on leur dit que pour faire valoir leurs droits, faut respecter le principe de subsidiarité et demander déjà l'allocation logement, voire aussi pour la pension alimentaire, etc., ensuite demander les prestations complémentaires familiales, c'est vite des personnes qui peuvent être submergées tellement le système est complexe. Donc moi j'ai envie de dire que c'est aussi le fait que les prestations soient multiples que finalement on renonce à les demander.
Et on le voit bien, merci pour la remarque, on le voit bien dans le cas de l'État, c'est ce que vous disiez avec la subsidiarité, le fait qu'il y ait une hiérarchie dans l'ordre de demander des prestations et que vous pouviez être bloqué à un certain moment parce que vous n'avez pas demandé une prestation avant. Et l'exemple qui parle en termes de genre, je le reprends, c'est l'idée du SCARPA, des pensions alimentaires, recouvrement de pensions alimentaires. On vous dira, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide sociale parce que vous n'avez pas épuisé l'ensemble des droits précédents, dont le SCARPA. Allez au SCARPA, demandez, entrez en lutte en quelque sorte avec votre ex qui refuse de payer la pension. C'est d'ailleurs pourquoi les Françaises nous disent les hommes ne vivent pas la séparation comme une vulnérabilité économique accrue, parce qu'en fait, quand il y a une pension, on ne la paye pas toujours. Et les femmes, en l'occurrence beaucoup de femmes, vont être réticentes à entrer dans, pour différentes raisons que je ne saurais vous dire à ce jour, je peux imaginer, mais voilà, vont être réticentes à passer par là, parce qu'en termes là de rapports conjugaux, de rapports aux enfants, etc., ça mobilise de nouveau tout ce qu'on a dit, hein, sur cette dimension genrée très forte, et c'est bloqué là, et donc c'est bloqué ailleurs. Et ce que vous dites aussi, vraiment intéressant, sur le fait que ces rapports entre des institutions qui voient des taux de non-recours pour ça, comme les prestations complémentaires famille aussi, et les associations, des professionnels du terrain qui nous disent, on passe en quelque sorte notre temps, j'exagère un peu mais à peine, à partir au combat juridique pour les personnes qui n'auront pas les moyens, pour essayer de faire valoir leurs droits. Et donc on aurait une sorte de confrontation juridique entre juristes, hein, je ne sais pas, j'imagine, juriste du CSP, juriste des prestations complémentaires famille, jusqu'à ce qu'un tribunal fédéral nous donne la jurisprudence pour que ces partenaires de terrain puissent travailler ensemble pour traiter des cas qui sont bloqués, en quelque sorte, parce que, comme vous dites, hein, dans le système, il y a des mécanismes de blocage impressionnants.
C'est tout à fait le cas. Puis, ouais. C'est vrai qu'on sollicite souvent notre secteur juridique pour faire des oppositions, même aller plus loin, pour qu'il y ait des situations qui soient tranchées. Même aussi par rapport aux allocations familiales, les demander, c'est très compliqué en fonction de la situation du domicile de l'enfant, de la situation du père, de la mère. Enfin, donc c'est vrai que c'est vraiment le parcours du combattant, et quand on a déjà certaines difficultés qui ont été énumérées, ben moi j'ai envie de dire que c'est une politique publique qui finalement n'est pas tellement là pour les personnes, mais qui pousse à ne pas vouloir demander des prestations parce que c'est trop compliqué. Sans même parler des fois des trop perçus, notamment avec les prestations complémentaires familiales, ou pour des situations où les salaires sont irréguliers, le SPC va parfois attribuer certaines prestations, puis demander un trop perçu, juste alors que la personne, tous les mois, on voit bien sa fiche de salaire.
Ça, c'est une cause de non-recours qu'on a identifiée dans les entretiens. Des personnes qui, finalement, après avoir hésité, après avoir été accompagné, pris en main, persuadé par des assistantes sociales très compétentes, très qualifiées, qui arrivent alors les aider à construire un dossier aux prestations complémentaires, famille qui leur revient parce qu'il manque, semble-t-il, toujours quelque chose, qui ensuite reviennent, etc., enfin touchent des prestations complémentaires famille. Ah, mais votre situation a changé, etc. Donc, en fait, vous nous devez 2000 balles. Et les personnes vous disent, c'est fini, je ne veux pas des prestations complémentaires famille, c'est pire. L'incertitude qu'elles génèrent sur mon budget qui est déjà limité, c'est pire que rien. Et je reviens sur mes autres travaux sur les démences, parce que j'y pense maintenant à échanger avec vous. C'est quelque chose qu'on entend, l'aide à domicile, dans le cas des démences. Les gens qui vous disent, ah non, je ne veux plus d'aide à domicile pour mon conjoint qui a Alzheimer, parce que, comme ils ne viennent pas aux horaires prévus, et qu'ils s'y prennent mal avec mon conjoint, et qu'ensuite il est énervé, et qu'ensuite tout est perturbé, j'en ai pour une semaine à remettre sur les rails mon organisation qui est déjà à la limite de l'implosion. Donc, non merci. C'est-à-dire, je ne veux pas de cette aide qui crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Hein? Donc, je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais moi, je vois ces deux mécanismes dans ces deux situations-là qui interpellent quand même sur...
sur l'aide qu'on prétend amener, effectivement, qu'on aimerait amener.
J'ai souvenir d'une dame qui était au bénéfice des prestations complémentaires familiales, qui m'avait dit, écoutez, finalement, je vais renoncer, donc je vais écrire un courrier pour dire que j'en veux plus, parce que même si j'ai finalement moins d'argent, ben, je serai plus tranquille. Oui. Elle avait vraiment fait ce choix-là de stopper l'aide du SPC.
Dernier point, si j'ai bien compris, dans la transformation des états sociaux, quelque part, on continue à véhiculer l'image de la famille, mais en même temps, on véhicule les nouvelles normes d'égalité entre les femmes.
C'est-à-dire, on a quand même égalisé le droit en Suisse, effectivement, tu parlais, hein, constitution fédérale, loi, etc. On a égalisé pas mal de choses dans le droit des assurances sociales, notamment dans l'AVS, par exemple, et on a des résultats en termes d'égalité des sexes formels, si vous voulez, qui sont là. Ça, c'est indéniable. Et puis, on a la promotion, quand même, d'un discours sur le double revenu, donc d'une famille avec deux conjoints qui, hommes ou femmes, travaillent, s'investissent sur le marché du travail, pas forcément parce qu'ils en ont plus absolument envie d'eux, mais parce que, par les temps qui courent, un seul revenu pour nourrir une famille, c'est presque plus imaginable, sauf pour certaines catégories de personnes. Donc on a ces normes-là, on a quand même ces normes très fortes en termes d'égalité des sexes, hein, qui se diffusent aussi. Je suis pour, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'intéresser à la réception de ce discours-là. À la réception d'un discours d'égalité des sexes qui ne tiennent pas compte des inégalités réelles, là aussi. Et de ce point de vue-là, ce qu'on a, c'est quand même un rapport de la femme ou de la mère à l'état social qui est en transformation. Et on a une individualisation des prestations, ça c'est clair. Il y a des historiennes qui avaient bien montré, en tout cas en France, à l'époque, la grande époque des allocations familiales en France, hein, donc après la Deuxième Guerre mondiale, les allocations familiales, elles étaient versées. Parce que le rapport des femmes à l'état social est très ambivalent aussi, c'est-à-dire le maternalisme ou le familiarisme, c'est une politique. De soutenir les mères, c'est quelque chose qui est très important. Et à l'époque des allocations familiales en France, ces historiennes, comment est-ce qu'elles s'appellent ? Knibuller, je crois, a bien montré. Les allocations étaient prises, ou en tout cas étaient calculées ou indiquées sur la fiche de paye de monsieur. Donc de nouveau, là, de ce point de vue-là, c'était l'homme chef de famille qui, en premier lieu, bénéficiait de l'allocation familiale. Mais c'était le facteur qui, deux fois par mois, se rendait à la maison et amenait main à main, en quelque sorte, l'argent à la mère de famille, qui, pour beaucoup, était justement à la maison et là pour ouvrir la porte et recevoir. Et on a pu dire à l'époque, c'est pour ça que là où je voulais en venir, que la mère de famille était mariée à l'État-providence. Et donc là, je pense qu'il y a une sorte de divorce, en quelque sorte, dans cette égalisation, pour le mieux d'un certain côté, puisque ça va avec la transformation des états sociaux et donc la remise en question de ce modèle qui laissait peu de marge de manœuvre, en tout cas dans l'idéal aux femmes. Mais cette transformation-là doit être repensée dans ses jusque dans ses conséquences et pas juste amenée comme ça en termes d'impératif de certaines normes d'égalité qu'on impose alors qu'elles ne font pas forcément sens dans certaines situations. Je suis très claire.
On a une minute en Suisse-Romanche avec les femmes, les hommes et les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux, il y avait une indulgence sur les mesures d'intégration, ces politiques d'activation. Il y avait donc une indulgence du côté des bénéficiaires. En clair, les femmes avec enfants, donc c'est en 2008, on est déjà dans la règle des politiques d'égalité des sexes au niveau formel, avaient moins de pression. On disait, ah, vous avez des enfants, ben, on va vous laisser la mesure d'intégration, on ne va pas vous enlever, on comprend pour vous, c'est plus dur de vous activer. Ça va compter pour insertion sociale et professionnelle, mais ça va compter, vous ne serez pas le même bonus, malus, vous ne serez pas réduit au minimum. Donc là, ça montrait la contribution des politiques d'aide sociale au maintien des inégalités.
Oui, on le voit. En tout cas, il y a des travaux qui montrent ça en Grande-Bretagne, notamment, ou dans les pays, en tout cas, anglo-saxons. Il y a une différenciation des normes, enfin, de la contre-prestation demandée, y compris, notamment pour les maires, hein, les maires qui viennent à l'aide sociale, mais aussi un renforcement de certaines exigences, voir la forme que ça prend. Et dans ce cadre-là, il y a aussi des travaux, pour ceux que ça intéresse, ben, des travaux de nos collègues, Marianne Modac qui a travaillé sur ces questions, ou des Françaises qui ont travaillé sur le malgré, en quelque sorte, cette égalisation de normes, enfin les normes égalitaires plutôt, qui sont officiellement diffusées dans les institutions. Collègue donc de Lausanne, comme Marianne Modac, a bien montré pour la Suisse romande, en tout cas, que les professionnels mobilisaient toute une série de registres qu'elle a pu identifier, normatifs, en termes de genre, qu'elles appliquaient ensuite aux bénéficiaires.
Donc, la représentation par rapport au modèle dominant dans la décision, les attributions, etc.
Ouais.
Et personnellement, ça reste le modèle famille, la mère, le père, deux enfants, ou pas.
Et je pense que...
représentation ensuite, il y a une individualisation des
je, pour le dire assez simplement, je pense qu'on n'a pas tiré les conséquences complètes de ce que ça signifie, pour le dire vraiment comme ça, que d'être mère seule aujourd'hui, y compris à Genève au XXIe siècle. Donc il ne suffit pas de dire, ben, il n'y a qu'à travailler, ou comme on me disait dans certaines institutions sociales au niveau de la direction, il n'y a qu'à aller au Scarpa. D'ailleurs, c'est un axe féministe. Je pense qu'il faut se donner la peine d'aller voir que derrière ce yaka, non, il n'y a pas qu'à. Et il y a tout un chemin à faire, et que ce chemin peut être accompagné, s'il y a une volonté d'accompagner ce chemin, et que cette volonté, je ne pense pas qu'elle y est, mais peut-être pas parce que c'est un refus absolu, mais tout simplement, ce n'est pas forcément assez pensé, assez thématisé, assez travaillé au niveau politique et au niveau... Beaucoup de femmes, bêtement, on revient à des choses de base, j'apprends rien, mais vous me dites, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'une façon de pouvoir faire garder mes enfants dans le cadre de mes horaires à l'hôpital. Parce que, par ailleurs, les femmes qui travaillent et qui arrivent à travailler, travaillent comme par hasard dans le champ du care, du soin. Hein, imagine qu'elles vont pouvoir continuer donc, à l'hôpital, en EMS, etc., être soignantes, soignantes. Parascolaires, énormément de gens sont dans le parascolaire. Petit contrat, petit salaire, durée très très faible, 30%, 40%, travail souvent assez difficile. Et ils se disent, j'ai pas besoin de ça. En fait, je n'ai pas besoin de cet argent, idéalement. J'ai besoin des conditions pour me permettre de gagner mon argent. Et ça renvoie à des discussions, il me semble, qui devraient être acquises aujourd'hui, mais qui ne sont peut-être pas quand même au niveau politique. Bon, où sont les crèches suffisantes? Où est la flexibilité? Où sont les niveaux de salaire, etc., etc. Mais demande beaucoup d'aide sur comment être seule avec des enfants, voilà. J'ai perdu mon boulot parce que je n'arrivais pas à être à la fois au travail jusqu'à 20h ou une fois sur deux, de 12h, je ne sais pas quelle heure, puis là, tout en allant chercher mes enfants, tout en mettant un point d'honneur à ne pas demander à mon conjoint, ex-conjoint. Et j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc effectivement, j'ai présenté la stratégie des femmes comme une stratégie gagnante, en quelque sorte, ou positive, etc. Mais on a des trajectoires d'échecs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de stratégie, ça veut dire qu'elles n'ont pas trouvé. Femmes qui, suite à une question non recours, enfin, juste, je finis avec cet exemple-là, mais une femme qui, dont le mari ne payait plus le loyer, c'est comme ça qu'on trouve aussi les gens, parce que c'est au moment où quelque chose comme le loyer n'est plus payé, vous allez être expulsé. Cette femme a appris parce que l'homme est allé aux prestations à la ville, parce qu'il allait être expulsé. Elle a appris qu'en fait, l'argent qu'il avait, il ne l'utilisait pas pour payer le loyer. Différentes histoires. Bon. Suite à ça, elle a voulu divorcer, elle s'est séparée, et elle est partie avec ses enfants, et elle a cherché un toit. Elle raconte, c'est dans ces termes qu'elle le raconte. Elle voulait juste un toit pour pouvoir vivre avec ses enfants et un travail, travailler. Elle pensait rester deux ou trois semaines dans un foyer aux grottes. Elle m'a dit, j'y suis restée 8 mois. Et pas personne, ou en tout cas dans son histoire, ce qu'elle voulait de base, un travail suffisant pour vivre avec ses enfants et un logement, elle n'a pas pu l'avoir. Retour, case départ. Donc je l'ai interviewée dans le même appartement d'où elle était partie 12 mois avant, si vous voulez, dans un état de « je m'en remets à Dieu ». je renonce, je laisse tomber, il faudrait qu'on finisse parce que mon mari va rentrer. Donc ça, c'est une stratégie, effectivement. Essayez pas pu. Je n'ai pas le détail de l'histoire, j'accuse personne, mais je constate que la volonté y était. L'émancipation, à la fois en termes professionnels et en termes de conjugalité, y était. La volonté de faire recours y était, d'ailleurs. Et retour. Donc ça ne marche pas toujours.